Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Sortir du capitalisme, le podcast pour une critique émancipatrice du capitalisme. Et donc nous sommes dans une nouvelle émission de Sortir du capitalisme et aujourd'hui nous allons analyser le mouvement anti-passe en France contemporaine et donc pour en parler nous invitons Sylvain de Zone Subversive qui a participé de manière critique et distanciée au mouvement anti-passe à Montpellier. Donc bonjour Sylvain.
Bonjour.
Alors peut-être que tu peux commencer justement par nous dire pourquoi tu as participé à ce mouvement anti-passe puisque bon, d'emblée, une partie assez importante quand même de l'extrême-gauche et de l'ultra-gauche a rejeté ce mouvement.
Dans un premier temps, je peux dire que j'ai un tempérament assez mouvementiste. Ça, c'est la base, c'est que je participe au mouvement et je vois ce qui se passe concrètement et puis j'en tire des conclusions, des analyses a posteriori plutôt qu'a priori. Voilà. Et pourquoi j'ai participé, ça m'a paru intéressant d'aller dans ces manifestations. Pour des raisons là aussi assez conjoncturelles, c'est qu'il y avait très peu de mobilisation sociale à l'époque, voilà, de manifestations, etc. Et notamment sur les questions sécuritaires, puisque moi ce qui m'a mobilisé, c'est pas tant le vaccin en soi, où j'ai pas vraiment de compétences scientifiques, ni pour ni contre, voilà, c'est plus le côté pass sanitaire, le fait d'interdire, de faire des choses, d'aller dans des endroits selon le statut vaccinal des gens. Voilà. D'autant plus que le pass sanitaire s'inscrit dans un contexte de durcissement sécuritaire, où il y a eu la répression des gilets jaunes, effectivement, où il y a eu, pendant le premier confinement, on en parle assez peu, mais il y a eu une douzaine de jeunes qui ont été tués par la police pour non-respect du confinement. Voilà, des jeunes comme il y en a souvent qui sont tués dans les quartiers populaires, mais là, 12 en moins de 2 mois, ça fait quand même beaucoup, dont un à Béziers, pas loin de Montpellier, donc voilà, il y a ce contexte-là de durcissement sécuritaire, de la loi également sécurité globale qui est passée dans la foulée. Je ne sais plus quelles sont les raisons invoquées, mais très clairement, on voit qu'il s'agit de davantage contrôler la population, de davantage fliquer les gens, etc. Et cette mesure du pass sanitaire, moi, ça m'est apparu comme quelque chose qui est totalement dans cette logique-là. Que c'est pas tant une obligation vaccinale ou une politique sanitaire que vraiment un prétexte pour mettre au pas la population. Et également, et là ça a été plutôt bien joué de la part de Macron, c'est que ça a imposé un peu le vaccin comme sujet de débat et éventuellement de division, alors que pour moi effectivement ça devrait être un non-sujet. Et le fait de descendre dans la rue contre le pass sanitaire, ça aurait permis également, alors ça n'a pas été vraiment la perspective qu'a prise le mouvement, mais de remettre en cause toute la politique sanitaire du gouvernement, la gestion de la crise sanitaire, où là, je pense qu'il y a un large consensus pour dire que le gouvernement s'est contredit sur les masques, ils étaient contre, ensuite c'était pour, sur tout un tas de choses, voilà, sur la politique dans les hôpitaux, voilà, qu'il y avait en gros un mécontentement par rapport à tout ça, par rapport au confinement, au couvre-feu, aux politiques sécuritaires, qui faisait que je pense que c'était important de descendre dans la rue à ce moment-là, et d'ailleurs c'est des manifestations assez massives, en plein été, donc phénomène assez rare, qui se sont poursuivis, qui ont un peu tourné en rond, mais effectivement, je pense qu'au début, il y avait des potentialités intéressantes.
Alors peut-être avant de rentrer voilà, sur ce qui s'est passé dans ce mouvement anti-pass, donc notamment à Montpellier, que tu as pu du coup observer de près, puisque tu y as participé, peut-être deux remarques. Dans ton analyse donc enfin en tout cas des raisons qui t'ont poussé à participer à ce mouvement anti-pass. Donc toi, tu vois le pass sanitaire comme dans la continuité finalement, disons, des politiques, disons, de surveillance et de répression de l'État. Alors qu'effectivement, on peut avoir l'impression, mais tu nous diras ce que t'en penses, que une grande partie, en tout cas, du mouvement anti-pass ne critique pas en soi la répression et la surveillance, mais aspire simplement à un retour, entre guillemets, avant 2020. Mais on sait que la société de 2019, entre guillemets, était déjà une société de surveillance et de contrôle et de répression. Voilà. Et après, deuxièmement, du coup, j'ai l'impression que tu dis que le pass sanitaire, c'est avant tout, d'une certaine manière, à la fois un moyen pour l'État de renforcer, disons, le contrôle et la surveillance, tout en légitimant, voilà, par l'épidémie, par les nécessités sanitaires, et que d'autre part, c'est une diversion d'une certaine manière, parce que ça fait que, du coup, plutôt que de parler, entre guillemets, du bilan voilà, économique et social, par exemple, de Macron, on va parler de est-ce qu'on est pour ou contre le vaccin, avec des, finalement, et ça, tout en virant à une sorte de controverse quasiment scientifique, alors que l'écrasante majorité des gens n'ont pas forcément les billes pour participer à cette controverse, qui est extrêmement complexe, et finalement que même les scientifiques qui sont spécialisés là-dedans ont du mal à y voir clair. Mais du coup, est-ce que un troisième élément pourrait pas être aussi, et là peut-être que je fais un peu mon marxisme de base, mais que l'État français veut revenir à la normale le plus vite possible, et donc est prêt à passer par des mesures de contrainte. Avant l'été 2021, le gouvernement espérait une sorte de retour à la normale naturelle, entre guillemets, sans rien faire, d'ici la rentrée. Comme ce retour à la normale avec la quatrième vague ne semblait pas pouvoir se produire, et ben, du coup, il a mis le pass sanitaire pour être sûr qu'on reviendra à la normale en septembre 2021. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre élément d'explication, c'est cette sorte de biopolitique capitaliste qui régit de toute façon tout ce que fait le gouvernement depuis mars 2020.
Il y a une nécessité sanitaire. Effectivement, beaucoup de gens qui ont critiqué le mouvement anti-pass disent, d'ailleurs moi je suis assez proche de cette position, de dire qu'effectivement il y a une vraie pandémie qui fait des morts, voilà. Qu'effectivement, il n'y a pas de darwinisme social à avoir, de type biopolitique foucaldien, de dire oui, c'est des morts, mais c'est des personnes âgées, en surpoids, avec des problèmes respiratoires, donc bon, c'est pas si grave. Voilà, effectivement, c'est des discours que l'on peut entendre dans les manifestations et qui sont assez gênants, que l'on peut entendre aussi ailleurs, voilà. Et je pense qu'il ne faut pas être non plus dans ce qu'on appelle les Covid-sceptiques, ou dans le, voilà, de nier totalement la pandémie et les morts. Ensuite, je pense que dans un premier temps, c'est-à-dire le premier confinement, là, oui, il y a eu une panique du gouvernement de dire Brigitte Macron et la femme du président a dit, et Emmanuel Macron sortaient dans les théâtres pour dire, voilà, ça c'était une semaine avant le confinement, il me semble, sortaient dans les théâtres pour dire non, mais il n'y a rien à craindre, il faut que le commerce continue, que la culture, la vie, que la vie l'emporte, etc. Une semaine après, les mêmes disent mais c'est scandaleux, tous ces gens dans la rue, ils devraient rentrer chez eux, ils propagent le virus, tous ces pauvres, etc. Donc, il y a eu effectivement un moment de panique où le gouvernement français, à mon avis, ensuite, je suis pas à l'Élysée, donc je n'ai pas des informations de sources directes, mais il y a eu à la fois le fait d'avoir vu le cours de la bourse qui chute, et effectivement, les capitalistes, peut-être des appels de quelques grands patrons qui ont dit « Oulala, ça devient un peu craignant, il faut réagir vite parce que ça devient dangereux, etc. » Et l'autre aspect, c'est qu'ils ont vu ce qui se passait en Chine, et ils ont dit « On va faire pareil que le Parti communiste chinois », qui est devenu un peu le modèle de la politique française, d'après ce que j'ai compris, en partie parce qu'ils avaient un temps d'avance, et en partie parce qu'il y a des mesures très sécuritaires qui considèrent la population un peu comme des enfants irresponsables et que ça correspond à la fois au Parti communiste chinois ou au libéralisme français. Il y a un peu ces points communs-là. Donc il y a eu une volonté quand même de geler en partie l'économie avec ce confinement. Ensuite, au moment du pass sanitaire, je pense qu'on n'est plus dans cette démarche-là. C'est-à-dire qu'il y a un recul plus important sur ce qu'est la maladie, sur les moyens de contenir le virus, de la manière dont il se propage, etc. Il y avait beaucoup plus d'études, etc. Le fait d'axer tout sur le pass sanitaire et sur le vaccin, bon, là, effectivement, moi, je ne vais pas rentrer dans les débats sur le vaccin, je n'ai pas de point de vue particulier. Si ça peut ralentir des formes graves, c'est déjà bien. Ensuite, je pense que s'axer sur le vaccin, ça a été aussi une logique de simplicité. Et plutôt, par exemple, ce que préconisaient pas mal de médecins, c'était de mettre des aérateurs d'air dans tous les lieux publics, notamment les écoles, voilà, tous les bâtiments publics, les services publics, pour que, vu que le virus se propage apparemment par aérosol, pour limiter la propagation du virus de cette manière-là. C'est un coût apparemment qui est extrêmement important et que l'État ne voulait pas assumer, étant donné qu'ils avaient déjà donné énormément d'argent, le quoi qu'il en coûte, qui est surtout allé aux patrons et aux entreprises, hein, plus qu'aux gens directement, mais de fait, ils avaient fait beaucoup de dépenses. Et donc, le pass sanitaire s'est apparu comme, à mon avis, comme la solution de facilité. Plus qu'il y a une autre théorie qui dit, qui est propagée par l'extrême droite et par l'extrême gauche, cette théorie, c'est celle de la stratégie du choc, de dire qu'il y a le prétexte, la pandémie serait comme prétexte, à partir duquel le gouvernement avancerait ses pions de manière extrêmement stratégique, perfide et machiavélique, voilà, avec notamment Naomi Klein du côté des altermondialistes qui a fait un bouquin là-dessus. C'est des discours qu'on retrouve également chez les complotistes d'extrême droite, Asselineau et autres. Moi, je pense que le gouvernement était réellement désemparé et ne sait pas trop quoi faire et essaie de gérer les choses un peu, un peu à l'improvisation. Il y a plus d'improvisation que de plan machiavélique dans cette stratégie sanitaire du début jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas le fait de Noël ou pas. Obligation vaccinale ou pas, machin, il y a énormément de tâtonnements. Ça c'est très, très marrant parce que ça révèle un peu le côté autoritaire de l'État et d'infantiliser la population, c'est qu'il y a un refus aussi de revenir sur les décisions passées qui ont pu être mauvaises, notamment sur la suppression des lits d'hôpitaux, sur tout un tas de mesures qui ont été mauvaises. Le gouvernement préfère s'entêter dans l'erreur plutôt que de reconnaître les erreurs passées sur tout un tas de choses, même s'ils ont fait un revirement, je pense, qui a sauvé des vies par rapport au masque, parce que s'ils continuent à s'entêter à l'heure actuelle, je pense que ce serait assez, assez criminel. Mais je vois qu'il y a un peu plus de tâtonnement que d'autres choses. Et sur la gestion de l'État biopolitique... qui supposerait que tout ça est un dispositif de contrôle. Moi, je ne suis pas convaincu de ça. Pour deux raisons. La première, c'est comme je le disais juste avant, c'est que je ne pense pas qu'il y a de plan préétabli de l'État. Et surtout, je pense que les dispositifs de contrôle, ils étaient déjà là bien avant la pandémie. Alors la pandémie a accéléré les choses, c'est pas forcément un prétexte en tant que tel, c'est possible que ça a accéléré, que tout ce qui est passe sanitaire un peu, qui sont utilisés dans la Chine, notamment, en Chine, dispositif de contrôle, de ce qu'on appelle le crédit social à la chinoise, selon le casier judiciaire, les dettes éventuellement, etc., on peut rentrer, voire même les opinions politiques, on peut rentrer dans tels endroits et pas à d'autres. C'est vrai que c'est des logiques qui avancent progressivement de manière assez plus ou moins subtile, mais je pense de manière assez subtile. De le côté également, beaucoup ont parlé de tout ce qui est nudge, c'est-à-dire d'incitation de manière visuelle, notamment quand on met des traces de pas à certains endroits pour que les gens passent et ne se croisent pas. En soi, moi, j'ai rien contre, mais c'est vrai qu'on peut penser que c'est une manière d'influencer les comportements de manière plus subtile que, qu'avec les gendarmes, les amendes, ce qui a été la première période du confinement qui n'a pas vraiment marché. Il y a même eu des excès et des violences policières par rapport à ça. Je pense qu'il y a eu plus de, on va dire, discipline collective ou de responsabilisation de la population a mieux marché finalement que la peur de l'amende qui était ce sur quoi misait le gouvernement à la base. Et effectivement, il y a un mélange de contrôle social et d'infantilisation de la population, les deux étant liés, qui explique un peu les politiques actuelles.
Oui, oui, et d'ailleurs, juste pour préciser, je suis d'accord avec toi, juste pour préciser, du coup, mon usage de biopolitique, c'était plus dans le sens l'idée d'un, disons, de s'intéresser à la santé des populations et de mettre en place des politiques qui cherchent à sauvegarder la vie, hein, c'est le sens, enfin, disons, étymologique de biopolitique, et c'est comme ça que Foucault l'a conçu. C'est vrai qu'aujourd'hui, ceux qui se réclament de Foucault utilisent la biopolitique comme si elle était simplement une sorte de pur prétexte à une sorte de mise en place d'un système totalitaire, alors que l'usage pour le coup originel de Foucault, c'était simplement que l'État, ayant compris qu'il y avait un intérêt économique, disons, à préserver la santé de la population à moindre coût, évidemment, et bien du coup se mettait en place des politiques. Et là, effectivement, on peut avoir l'impression que le vaccin, c'est aussi ce qu'il y a de plus pratique pour le capitalisme. Parce que, bon, d'une part, évidemment, l'industrie pharmaceutique fait quand même des profits assez fous. Et puis, d'autre part, c'est aussi une mesure qui coûte finalement assez peu cher aux États. Bon, même si ça coûte quand même assez cher, parce que les marges de profit des entreprises pharmaceutiques qui produisent les vaccins sont très élevées. Ça permet par exemple, de, comme tu le disais, de ne pas employer, de ne pas avoir à acheter des milliers d'aérateurs. Et effectivement, du coup, les vaccins et aussi des mesures comme le pass sanitaire pour forcer les gens à se vacciner, c'est une manière à la fois peu chère de, disons, aller petit à petit vers un retour au statu quo capitaliste, mais aussi d'assurer ce retour au statu quo capitaliste d'une manière qui est en continuité avec les politiques du gouvernement Macron, mais en fait bien au-delà du capitalisme néolibéral depuis 40 ans, c'est-à-dire d'une part très libéral, c'est-à-dire en gros où on ne va jamais sacrifier l'économie. Bon, effectivement, il y a eu un peu de sacrifice de l'économie au premier confinement, mais globalement, les gens qui étaient essentiels pour tout ce qui est la logistique, les supermarchés, etc., ils ont quand même continué de bosser, hein, donc on n'a pas non plus complètement sacrifié l'économie. On a sacrifié, disons, les pans d'économie qui étaient moins essentiels sur le moment, mais on a continué de sacrifier aussi les gens qui travaillent dans ces secteurs souvent très mal payés et précaires, comme notamment la logistique. Et puis d'autre part, on a le pass sanitaire est aussi en continuité, hein, on l'a dit, avec disons l'autoritarisme paternaliste des gouvernements néolibéraux et puis même de l'État, hein, de manière plus générale.
Non, juste sur l'économie, je pense que ça a été plutôt un pari réussi, puisque ce qui a été perdu en termes de croissance pendant le premier confinement a été compensé par les effets de relance. Voilà, les gens sont ressortis, la consommation a repris, le tourisme aussi. Ce qui d'ailleurs est assez problématique au niveau de la limitation du virus. Hein, d'un côté, on dit voilà, le touriste venait et puis voilà, on veut contenir le virus. C'est très très compliqué. Mais au niveau économique, ouais, je pense qu'il y avait une volonté de gérer les choses de manière économique. Et à ce niveau-là, si l'économie se réduit aux courbes de la croissance, on peut dire que oui, les capitalistes n'ont pas perdu de trop d'argent, les grandes fortunes n'ont pas trop diminué pendant cette période-là, au final. En tout cas, ce qui avait été perdu pendant le premier confinement a été regagné.
Oui, et d'ailleurs, on a une bonne illustration de ce dont tu parles là, sur le tourisme, avec le cas de la Grèce, puisque le pass sanitaire a été instauré en Grèce juste après la saison touristique. Donc, ce qui a aussi provoqué beaucoup de protestations en Grèce, puisque évidemment, les touristes ont probablement ramené aussi pas mal de, ont amené pas mal de contamination en Grèce. Et le fait que le pass sanitaire intervienne juste après, évidemment, le calendrier des pass sanitaires est jamais un hasard. Là, le pass sanitaire a été imposé avant l'été en France parce qu'il y avait cet espoir de retour à la normale, qui avec la cinquième vague est en train de un peu de voler en éclats, mais disons qu'il y avait quand même cet espoir très fort. Alors peut-être maintenant qu'on a un petit peu donc parlé des raisons qui t'ont motivé à rejoindre ce mouvement, puis qu'on a un petit peu développé quelques analyses sur le pourquoi du pass sanitaire. Peut-être maintenant tu peux nous raconter un peu ton expérience du coup. Dans le mouvement anti-pass à Montpellier, avec évidemment deux choses qui sont quand même très intéressantes, c'est quelle était la composition sociale et les mots d'ordre politique et les formes d'action politique au début du mouvement. Et puis après, évidemment, la deuxième question qui est aussi très importante, c'est comment est-ce que cette composition sociale, ces mots d'ordre et ces modalités d'action ont évolué. Et puis peut-être aussi, comme tu as participé aussi au mouvement des Gilets jaunes, à Montpellier, peut-être aussi dire quelles sont les différences que tu as pu constater en termes de modalités d'action, de composition sociale et de mots d'ordre par rapport donc au mouvement anti-pass de ces derniers mois.
Alors oui, justement, je pense que c'est un des aspects qui m'a poussé également à participer au mouvement, aux manifestations anti-pass, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dans les Gilets jaunes et qui venaient à ces manifestations. Et du coup, on retrouvait des gens qu'on n'avait pas vus parfois depuis quelque temps, dans les manifestations, à se retrouver dans la rue. Voilà, donc il y avait cet aspect-là qui était, je pense, assez important. Par contre, s'il y avait beaucoup de mouvements de gens des Gilets jaunes dans le mouvement anti-pass, je pense que les deux mouvements sont très, très différents. Alors, il y a un point qui me semble assez essentiel, c'est ce que j'appelle les petits chefs. Les gens qui donnent des ordres au mégaphone, qui déposent parfois même les parcours de manifestation en préfecture, tous ceux qui cherchent à encadrer, à organiser le mouvement, ce qui était quelque chose qui était extrêmement mal vu au sein des Gilets jaunes, puisqu'il y a même certains représentants autoproclamés qui ont voulu aller à l'Élysée pour rencontrer Macron et négocier, et ces représentants ont été menacés de mort. Donc il y avait une défiance par rapport à tout ce qui est délégation. Il y avait une critique systématique de « lui, c'est un chef, lui, il prend de la place sur les réseaux sociaux, etc. etc. » Et ce genre de critique a totalement disparu dans le mouvement anti-pass, où les chefs sont plutôt bien vus, voilà, où on applaudit leur discours, aussi délirant qu'il puisse être, où il y a des figures comme Philippot, par exemple, alors, beaucoup à la télé, alors même s'il fait ses manifs un peu à côté, mais d'une certaine manière, on n'a pas l'impression que ce type de pratique soit remis en cause par l'ensemble du mouvement. Je pense qu'un type comme Philippot aurait fait sa propre manif Gilets jaunes pendant le mouvement, ben, les gens seraient allés le voir pour lui dire « non mais c'est pas possible, c'est pas toi qui nous représente, t'as rien à voir avec ma chaîne. Tu peux, à la limite, tu peux être dans le mouvement de manière discrète, de manière apolitique, sans mettre en avant tes idées d'extrême droite. » mais pas de cette manière-là, à parler devant tous les médias, etc. Donc il y avait quand même une critique des petits chefs qui était totalement absente de ce mouvement anti-pass, qui a pris des formes très, très légalistes. Voilà. Et puis également, ce qui explique un peu ces limites de ce mouvement, c'est la composition sociale, qui était alors pour le coup très interclassiste. Souvent, on a dit que les Gilets jaunes, c'était interclassiste, etc., il y avait des petits patrons. Là, je pense que le mouvement anti-pass était beaucoup plus interclassiste parce que les petits patrons dans les Gilets jaunes, c'est les gens qui ont un statut d'auto-entrepreneur. Voilà. Et puis, les petits patrons sont partis très rapidement. Dès qu'il y a eu des actions de blocage économique, ça ne leur a pas plu. Tandis que là, dans le mouvement anti-pass, il y avait des composantes, on va dire, qui s'apparentent à la sociologie de la gauche, c'est-à-dire du travail social, de la santé, de l'éducation, mais avec, pas du tout les mêmes codes, les mêmes esthétiques, le même folklore que la gauche traditionnelle. Avec la même posture avant-gardiste, moi je trouvais, avec les gens avec qui j'ai discuté, qui étaient contre le vaccin, disaient de manière argumentée, scientifique, on a lu telle étude, machin, etc., pourquoi le vaccin allait tuer tout le monde. Et en même temps, une posture très avant-gardiste, hein, comme Réon Faux-Covid ou La Rose Blanche, qui ont pour moi un activisme qui s'apparente beaucoup à ce que fait l'extrême-gauche de manière traditionnelle, c'est-à-dire coller des autocollants, avoir des slogans, des visuels, des discours un peu préfabriqués, idéologiques, pour influer le mouvement. Et d'ailleurs, ils ont en partie réussi avec l'idée qui cherchait à convaincre les gens de ne pas se vacciner ou de ne pas faire la troisième dose, la quatrième dose maintenant, etc. Avec un côté, on est un peu l'avant-garde éclairée face à tout ce peuple de moutons qui suivent les directives du gouvernement, qui sont pucés, vaccinés, dociles, prêts à se faire attendre sans aucun problème. Et nous, on est un peu les derniers rebelles qui devront apporter la lumière, le savoir par rapport aux gens qui sont dans l'ignorance. Donc il y avait une posture très très avant-gardiste et des réflexes effectivement qu'on retrouve dans une certaine sociologie des manifs de gauche. Quand c'est les manifs de gauche, c'est un petit peu agaçant que les gens nous expliquent la vie, etc. Mais c'est, on va dire que c'est supportable. Là, c'était quand même autrement plus gênant quand les discours sont très délirants, effectivement souvent complotistes, alors parfois... Ça allait du chercheur qui a lu des études scientifiques pour dire que l'ARN messager, c'est des dangers, jusqu'au complotiste lambda qui a vu une vidéo YouTube d'Asselineau pour dire que tout ça était... voilà. Et encore, Asselineau, c'est assez soft. Voilà, donc il y avait ces aspects-là. Par contre, il y avait une autre composante sociale qui était, je pense, assez intéressante. On n'avait pas prévu de parler de la Guadeloupe, mais en Guadeloupe, on voit que c'est une composition sociale aussi un peu différente. Où, en gros, il y avait beaucoup de personnel soignant, beaucoup de gens qui sont concernés, parce que là, dans la division vaccinée, non vaccinée, il y a une autre division qui est celle qui avait la suspension professionnelle. Dans la santé, etc., les gens étaient suspendus. Ce qui est absolument, absolument terrible, parce que les gens ne sont même pas licenciés, n'ont même pas droit au chômage, ne peuvent même pas trouver un autre boulot, n'ont pas d'indemnité, de quoi que ce soit. Juste, ils doivent attendre que Macron décide de leur verser à nouveau un salaire. C'est souvent dans le secteur public ou parapublic. Donc là, je pense qu'il y avait potentiellement... une composante un peu plus prolétaire, on va dire, avec des revendications un peu plus de classe sur ce qui concerne les salaires, en ce qui concerne le revenu. Et malheureusement, là, c'est la grosse différence avec ce qui s'est passé avec la Guadeloupe, il y a eu très peu de mobilisation de ces secteurs-là. D'une part, dans ces secteurs-là, les gens se sont fait vacciner de manière assez pragmatique et compréhensible. Moi, je ne vais pas perdre mon salaire pendant plusieurs mois jusqu'à je ne sais pas quand. Je préfère me faire vacciner, même si je n'ai pas trop confiance et tout. Mais voilà, au moins, on est tranquille. Et ce qui est beaucoup plus condamnable, il n'y a pas eu de solidarité avec les personnes qui n'ont refusé de se faire vacciner et qui sont rentrées de manière assez courageuse, mais sans forcément de perspective de lutte, dans la suspension avec des beaucoup de personnels soignants qui ont été suspendus. D'ailleurs, il y avait des discours assez intéressants de personnels soignants qui disaient, en gros, pendant la pandémie, on se faisait tester, on était positif, on nous disait, vous devez continuer à travailler. Et là, maintenant, les mêmes personnes, parce qu'elles refusent de se faire vacciner, ne peuvent plus continuer à travailler. Donc, il y avait une espèce d'incohérence, là aussi, les incohérences de la politique sanitaire autoritaire du gouvernement. Et le mépris, évidemment, parce qu'ils étaient confrontés à des cadres des hôpitaux, à des managers, etc. Comme dans toutes les entreprises publiques ou privées, ces gens respirent un mépris, un peu comme quand on voit les macronistes à la télé. C'est à peu près, il y a ce même phénomène, des gens totalement méprisants, qui ne comprennent rien à la situation, qui n'ont aucune réponse à apporter, qui n'ont rien à répondre, voilà. Donc il y avait ce côté-là qui pouvait être assez explosif, mais qui n'a pas explosé, à mon avis, parce que les personnels soignants se sont retrouvés très isolés. En Italie, par exemple, d'après ce que j'ai compris, l'obligation vaccinale était pour tout le monde, et tous les travailleurs de tous les secteurs pouvaient être suspendus. Donc ce qui fait beaucoup plus de monde, et éventuellement beaucoup plus de solidarité interprofessionnelle, tandis que là, il y a eu des collectifs comme les Blouses Blanches Libres, qui se sont créés, donc dans un seul secteur qui est celui de la santé, même si c'est très vaste, mais dans un seul secteur, et surtout qui est un peu isolé du reste du personnel dans la santé, puisqu'ils ne vont plus au travail, voilà, ils n'ont aucun message de soutien, ni par mail, ni par téléphone, donc ils se retrouvent dans une forme d'isolement total qui les empêche finalement de d'enclencher vers des pratiques de grève, de lutte, de blocage, d'action directe, etc. Et ça, c'est un peu le grand problème, à mon avis, de ce mouvement. C'est qu'on est resté dans la seule forme de la manif, alors qui au début était déclarée, ensuite n'était plus déclarée, qui toujours, elles sont interdites toujours, les manifestations. À Montpellier, j'ai regardé le préfet, comme au moment de la grande époque des Gilets jaunes, rappeler que la manif est interdite par des tweets, etc., par des conférences de presse. Mais elles suivent un parcours extrêmement routinisé, ce qui n'était pas du tout le cas des Gilets jaunes, où ça pouvait partir dans tous les sens, où la police était aussi beaucoup plus présente, parce que c'était beaucoup plus incontrôlable que ces manifs qui sont très plan-plan, très gentillettes. Il y a même des gens qui apportent des sonos, ce qui permet de effectivement très, très sympathique, mais qui rentre dans la forme de la manif un peu CGT, qui tourne en rond, mais qui est sans autre perspective. Et surtout, il y a eu très peu d'actions en dehors des manifs. Il y a eu très peu d'actions contre les hôpitaux ou les entreprises qui pratiquent la suspension des personnels non vaccinés. Il y a eu très peu, encore moins, de tentatives de grève, d'arrêter le travail, de blocage, etc. Et il n'y a même pas eu d'espace de discussion. Ce qu'il y avait beaucoup aux Gilets jaunes, que ce soit les ronds-points, les péages ou même les assemblées dans une forme un peu plus gauchiste, on discutait en dehors des manifs, il y avait des espaces pour réfléchir, pour échanger, etc. Là, ça convient bien à la forme très réinfo-Covid, où il y a quelques personnes qui sont l'avant-garde autoproclamée, qui disent aux gens, voilà le discours, avec des prises de parole très classiques, comme dans une manifestation syndicale, où il y a des permanents syndicaux parlent. Là, c'est les différentes sectes, plus ou moins complotistes, qui s'expriment à tour de rôle pour dire, le vaccin va tous nous tuer, etc. etc. Donc, c'est vrai que c'est des formes de lutte, des pratiques de lutte, qui sont assez inoffensives. Et jamais, à aucun moment, ne se pose la question de passer à l'étape supérieure, d'essayer autre chose, de tenter autre chose, de lancer des trucs qui ne vont pas forcément marcher, mais au moins d'autres initiatives. Là, on a vraiment, à mon sens, un mouvement qui s'est enfermé dans la marginalité. Assumé. C'est-à-dire que c'est pas les gilets jaunes où, au bout d'un an, les gilets jaunes sont toujours les mêmes en manif et il n'y a personne qui les rejoint, se disent « bon, ben voilà, machin, les gens sont des moutons ». Là, c'est d'emblée, on part du postulat que les gens vaccinés sont des moutons. D'emblée, on part du postulat que les gens sont totalement vendus et pourris. Donc, à partir de là, quelles alliances possibles, quel mouvement construire, comment on peut s'élargir? C'est hors de la réflexion de tout ce mouvement, qui est dans un phénomène, dans certains aspects, de dérive sectaire. On retrouve certains aspects de volonté de se retrouver un entre-soi, c'est ce que disent certains spécialistes du complotisme, même toutes ces études sur le complotisme sont souvent bidons, mais il y a un aspect, on se retrouve entre gens qui pensent un peu la même chose, un peu comme sur les réseaux sociaux, sur les groupes Telegram, etc., plutôt que d'essayer de s'élargir, de rencontrer de nouvelles personnes et d'essayer d'impulser quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est vrai que c'est le côté le plus décevant, c'est que Et je pense que c'est lié. Si le discours complotiste a gagné, c'est que c'est un mouvement qui est plus replié sur lui-même qu'ouvert vers l'extérieur.
Oui, je pense qu'effectivement, c'est très juste ce que tu viens de dire, puisque effectivement, il y a certains Anglais d'un collectif qui s'appelait Aufheben qui disaient que le conspirationnisme, c'était la réification de la défaite, et que souvent le conspirationnisme devenait dominant dans, disons, la traînée des mouvements qui avaient échoué, comme l'échec du mouvement anti-guerre, donc anti-guerre en Afghanistan et en Irak. Son échec avait entraîné la montée du conspirationnisme contre le 11 septembre. Mais du coup, en fait, ce qui est assez intéressant, et c'est pour ça que c'est bien que tu aies parlé quand même du cas italien et guadeloupéen, et puis aussi de cette composante un peu différente, entre guillemets, prolétarienne, disons, du mouvement anti-pass en France, c'est qu'on voit que, entre guillemets, il y a un peu, pour parler comme les sociologues, il y a un peu deux idéotypes des mouvements anti-pass, c'est-à-dire que d'un côté, il y aurait presque le mouvement anti-pass qui est plus prolétaire, entre guillemets, qui semble plus dominant du coup en Guadeloupe, et aussi en partie en Italie, même si probablement que en Italie, en Guadeloupe, il y a aussi une dimension interclassiste comme au début des Gilets jaunes. Hein. Mais disons où, disons les motifs, ou disons que l'agenda politique du mouvement n'est pas uniquement concentré que contre la politique du pass sanitaire du gouvernement, et où du coup, par exemple, l'opposition au vaccin est partie prenante, évidemment, de ces mouvements, mais, disons, occupe une place beaucoup moins centrale, disons, qu'en France métropolitaine, où il est devenu complètement hégémonique. D'autre part, sur les modalités d'action, effectivement, on voit que en Guadeloupe et en Italie, il y a des modalités qui sont beaucoup plus proches de celles du mouvement des Gilets jaunes ou même du mouvement ouvrier avec des blocages, des grèves. Il y a eu aussi un blocage notamment sur le port de Trieste. Donc, on a des modalités d'action du coup qui sont assez différentes des modalités d'action que tu décris du mouvement, disons, contre le pass sanitaire quasiment depuis le début, hein, mais de plus en plus. Un mouvement donc qui se cantonne voilà, à des manifestations plan-plan, très idéologisées, très propagandistes, avec des petits chefs qui déclament leur discours. Et puis aussi, voilà, donc on voit bien que finalement, on n'essaye pas, disons, dans cette émission, de faire une sorte de caractérisation un peu abstraite de ce que serait le mouvement anti-pass, qui serait soit forcément réactionnaire ou forcément petit bourgeois ou alors au contraire, hein, qui serait finalement juste une sorte de continuité des Gilets jaunes, parce que c'est aussi ce qu'ont dit un certain nombre de commentateurs, mais souvent qui n'aimaient pas les Gilets jaunes déjà et qui aiment encore moins le mouvement anti-pass. Mais disons que voilà, en fait, en fonction aussi de la composante de classe, de la composition de classe de ces mouvements, du coup, il y a un horizon, disons, de contestation plus ou moins large. En Guadeloupe, il est assez fort, puisqu'il va jusqu'à une contestation finalement du caractère néocolonial de la domination de la France là-bas. Il y a aussi des revendications sociales qui sont très fortes. Quand on lit d'ailleurs les revendications des syndicats en Guadeloupe, on voit que ce n'est pas du tout un déni de la gravité du Covid, mais qu'au contraire, il y a un certain nombre de mesures sanitaires qui sont préconisées. Alors après, on peut être d'accord ou pas avec ces mesures sanitaires, on peut critiquer une partie de leur programme, mais en tout cas, on ne peut pas dire que leur programme, comme en France, se réduit à une sorte de volonté de retour au statu quo et une simple opposition idéologique, pseudo-scientifique, entre guillemets, au vaccin, à la vaccination. Du coup, c'est là où effectivement, ce que tu disais au début de l'émission sur la nécessité de pas juger les mouvements a priori, mais de participer ou à minima, disons, de se renseigner dessus, est important, puisqu'on voit bien que finalement, entre les différents endroits du monde, les mouvements anti-pass sont quand même assez différents. Après, ça veut pas forcément dire que le mouvement anti-pass en Guadeloupe soit, ou le mouvement anti-pass en Italie soit porteur de la révolution communiste, ça on n'y croit pas trop. Mais disons qu'au moins, il dégage un autre horizon politique que effectivement le mouvement anti-pass en France métropolitaine, qui pour le coup s'éloigne toujours plus, disons, d'un mouvement auquel on pourrait d'une certaine manière au moins s'intéresser ou se rattacher de manière critique.
C'est extrêmement compliqué d'intervenir dans ces mouvements-là. Les Gilets jaunes, c'était le cas, mais ce n'était pas gênant parce qu'on se laissait un peu entraîner par le tourbillon, par l'état d'esprit général du mouvement. Là, c'est vrai qu'il y a, les potentialités. Ensuite, moi, je ne suis pas sur une position de dire... comment dire, certains militants d'extrême gauche disaient si la CGT venait avec ses camions, ça aurait donné une tonalité différente, etc. Certains gens du NPA ou de la France Insoumise tiennent ce discours-là. Moi, je pense qu'en partie, hein, peut-être qu'en partie, ça aurait donné une tonalité différente, peut-être d'autres discours un peu plus déconnectés, à mon avis, qui auraient été juxtaposés plus qu'autre chose, plus sur la situation de l'hôpital public, etc., qui peuvent être intéressants, voilà. Discours classique sur les services publics. En revanche, ça n'aurait pas ouvert davantage de perspectives, de potentialités, de possibilités d'élargissement ou quoi que ce soit. Donc, il y a un aspect qui fait que ce type de mouvement est très difficile à appréhender, que je pense qu'il n'a pas évolué en partie parce qu'il y avait très peu d'espace de discussion. La seule modalité, c'était la manifestation. Qu'il y avait la volonté également, là, pour le coup, il y avait la volonté de la part des sectes complotistes comme Réinfo Covid, La Rose Blanche, etc., d'essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'espace de discussion. Qu'il y avait des assemblées qui étaient lancées, même par eux-mêmes d'ailleurs, hein, eux-mêmes, ils ont lancé une assemblée à un moment donné. Dès qu'ils ont vu que ça parlait d'action, ils ont dit bon ben on arrête les assemblées. Et eux, leur seule forme d'intervention, c'est la pratique évangéliste, le discours, la messe, etc. Un peu comme l'extrême gauche d'ailleurs à ce niveau-là, mais qui permet pas du coup discuter, d'échanger, de développer des réflexions, des pistes d'action, etc. Voilà. Sans parler effectivement de tendances qui étaient ouvertement d'extrême droite. À Montpellier, il y a eu notamment la Ligue du Midi qui venait au début avec la volonté de porter un discours ouvertement fasciste, avec sous la forme d'ailleurs d'une milice fasciste qui venait d'une trentaine de personnes avec des gants coquets, etc. Il y a eu les troupes également de moins armées militairement, mais tout aussi nocives politiquement, qui est les troupes de Philippot et de sa secte les Patriotes, donc un dissident, un ancien numéro 2 du Front National, voilà, qui dit qu'il a tout renié, etc. Mais qui portait de fait un discours antisémite avec la pancarte qu'on a vu dans certaines manifestations, c'est-à-dire de dire de manière, je crois que c'est un général, cette fameuse tribune des militaires. Qui avait lancé sur un plateau télé, qui est responsable de tout ça, sous-entendu les Juifs, avec l'habileté de l'extrême droite, puisque l'antisémitisme peut être poursuivi de manière pénale, ça permet d'éviter des procès, ça permet d'éviter d'accuser d'être antisémite, tout en faisant glisser des discours un peu... Voilà. Ensuite, moi je pense qu'effectivement c'était des composantes très marginales qui le sont toujours dans ce mouvement, mais si elles ont pris de l'importance, si elles n'ont pas été on va dire rejetées par le mouvement, c'est qu'il y avait quand même une propension à ce genre de discours qui existe, je pense qu'ils vont exister dans beaucoup de mouvements sociaux, hein, où Ça, je pense qu'il faut le dire. Moi, je ne suis pas d'accord avec certains discours qui, comme tu disais pour les Gilets jaunes, comme pour le mouvement anti-pass, disaient tout ça, mais ce n'est pas le folklore de la gauche, donc on rejette. Je pense qu'à l'heure actuelle, l'extrême gauche, les syndicats, ce qu'on appelait la gauche, lointain héritage du mouvement ouvrier, a quasiment disparu des mémoires. des discours, des pratiques, et qu'il y a des nouvelles personnes, on voit dans beaucoup de mouvements sociaux, même écologistes, même contre les violences policières, etc. Beaucoup de jeunes qui ne sont pas politisés, beaucoup de personnes qui sont politisées, mais par YouTube, on va dire. Donc pas par la théorie, pas par on va dire, un cadre idéologique structuré comme pouvait être Parti communiste, CGT, etc. Et donc je pense qu'il va falloir s'habituer à ce que les mouvements, au confusionnisme, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire avec, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le combattre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le critiquer et dire aux gens, par exemple, qui portent des étoiles jaunes ou des drapeaux français, d'aller les voir, leur demander pourquoi, quel sens ça a, au moins de poser des questions et de ne pas faire comme si tout ça était normal. Mais disons que ouais, ça fait partie des choses un peu qui marquent le 21e siècle. Hein. Les printemps arabes en 2011, c'était des révoltes sans aucune esthétique de gauche ou quoi que ce soit. Et ça continue avec tous les soulèvements à travers le monde. En revanche, les questions qu'il faut porter, c'est quelles sont les perspectives du mouvement, vers quoi ça s'oriente. Alors là, ça s'oriente pas vers grand chose. En Guadeloupe, ça s'oriente, il y a deux perspectives. Il y a les jeunes qui sont sur les barrages, alors qu'apparemment qui ont été assez rapidement réprimés et pas avec énormément de soutien, d'après ce que j'ai compris, de la part des syndicats, mais beaucoup de jeunes qui étaient sur les barrages, qui bloquaient les routes, en gros, voilà, qui ont été, qui exprimaient des perspectives, et une perspective plus intersyndicale, LKP, avec une plateforme de revendication qui est là pour négocier, etc. Voilà. Mais il y a au moins des perspectives différentes. Il peut y avoir des débats. Là, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué d'exprimer des débats, d'ouvrir des perspectives. Effectivement, en partie, quand le seul espace, c'est la manifestation et qu'il n'y a pas grand-chose, c'est vrai que c'est compliqué. Ensuite, il y a également des gens qui interviennent, qui sont un peu des ovnis, type Étienne Chouard dans les Gilets jaunes, alors qu'il, lui, n'est pas intervenu directement. Mais c'est des Gilets jaunes qui ont tapé démocratie sur YouTube, qui sont tombés sur les vidéos d'Étienne Chouard, du RIC, etc. Voilà, donc il y a cette forme de politisation qui existe. Où effectivement les gens tombent plus souvent sur Étienne Chouard que sur sortir du capitalisme. Ça, c'est les algorithmes YouTube, il faudra aller porter plainte auprès des GAFAM, mais oui, malheureusement, il y a un phénomène d'auto-alimentation. Ensuite, c'est très compliqué à voir les perspectives aujourd'hui pour les luttes actuelles. On sent qu'il y a une conflictualité qui existe, il y a beaucoup de grèves dans les commerces, dans la grande distribution, des grèves dans des secteurs justement peu syndiqués, là aussi peu politisés, qui sont pas forcément directement liés au pass sanitaire, mais mine de rien la question des primes, du débat sur qui est essentiel, qui est non essentiel, on travaillait pendant la pandémie, alors que... on savait pas ce qu'on risquait, etc. Et maintenant, on est traité un peu comme de la merde. C'est vrai que c'est des choses, mine de rien, qui font leur chemin, qui sont la cause de pas mal de grèves à l'heure actuelle et qui sont pas totalement inintéressantes. Et du coup, poser le débat à faire du vaccin, comme c'est le cas du mouvement anti-pass, qui devient de plus en plus anti-vax avec des discours qui glissent très rapidement, du pass sanitaire au vaccin. Discuter du vaccin, moi j'ai rien contre, hein, mais que ce soit le seul sujet de discussion, c'est vrai que ça pose énormément de problèmes. Et notamment de ne pas parler, et là pour le coup je vais faire mon complotiste, mais quand le gouvernement met sur la table le sujet du vaccin comme sujet principal, vu qu'il a compris que la sécurité et l'immigration, ça n'intéressait personne, ça permet évidemment d'évacuer toutes les politiques sociales, les inégalités, tout ce qui ressort à tous les mouvements sociaux systématiquement. quand il y a un mouvement social, sur les chaînes info, on ne parle pas d'immigration, de sécurité ou de vaccin, on parle d'inégalité sociale, on parle d'injustice, on parle de retraite à faible niveau, de travail précaire pour les femmes, etc., etc.
Oui, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que finalement, effectivement, le gouvernement bénéficie, en tout cas, même si ce n'était pas forcément son intention, mais en tout cas, il bénéficie de cette polarisation idéologique, de cet affrontement idéologique autour du vaccin. Alors maintenant, en plus, il y a la campagne présidentielle qui commence, donc il y a aussi la polarisation idéologique autour de Éric Zemmour et de ses idées. Donc finalement, comme les questions sociales et économiques sont complètement marginalisées de l'espace médiatique et aussi même de l'espace du mouvement réel, puisque le mouvement réel, aujourd'hui, c'est bien triste à dire, mais enfin, c'est principalement, du coup, les restes du mouvement anti-pass. Évidemment que ça bénéficie au statu quo. Et peut-être sur la question des perspectives et de la manière dont on peut analyser ces différents mouvements, ce qu'on peut dire, c'est que le mouvement anti-pass en France métropolitaine est très rapidement devenu un mouvement à motivation idéologique, où les gens sont venus pour des raisons idéologiques, principalement conspirationnistes, en tout cas des motivations idéologiques diverses et variées. Là où effectivement, les gilets jaunes, il y avait évidemment une très forte confusion idéologique, clairement, et d'ailleurs qui est restée jusqu'au bout, et c'est pour ça que le mouvement des gilets jaunes ne doit pas être exempt de toute critique. Mais par contre, la base de la mobilisation, pourquoi est-ce que les gens s'étaient mobilisés à la base ? C'était bien des motifs de classe. Et c'est ce qui fait que, évidemment, le fait que les gens se mobilisent sur la base de la classe plutôt que sur une base idéologique ne garantit pas le fait qu'il n'y aura pas tout un tas de limites pratiques, idéologiques, de confusion, etc. Mais disons qu'au moins, le mouvement des Gilets jaunes pouvait devenir quelque chose, là où le mouvement anti-pass est très rapidement devenu, en France métropolitaine, je dis bien, une impasse, puisque simplement un mouvement de contestation idéologique emmenée par une portion de la classe moyenne qui se pense plus intelligente que les autres et qui du coup, comme tu disais, fait son évangélisme à chaque manifestation, a des comportements de petits chefs avant-gardistes et attend à ce que les gens ne discutent pas mais suivent aveuglément leur vérité qui serait la bonne.
D'ailleurs, ce mouvement anti-pass, pour essayer de le comprendre, il y a eu beaucoup de comparaisons. La première, c'était les Gilets jaunes. Il y a une philosophe, Valérie Géard, qui compare ça au mouvement de la Manif pour tous, donc à l'extrême droite. Il y a une comparaison qui n'a pas été faite, c'est celle avec le mouvement Loi Sécurité Globale. Ou moi, c'est évidemment la comparaison qui me vient tout de suite à l'esprit, puisque c'est, comme tu dis, c'est un mouvement idéologique. Par rapport à une idéologie, on n'est pas d'accord avec le gouvernement pour des raisons, que le gouvernement est méchant, il est sécuritaire, etc. Plutôt que pour des raisons sociales, on est dans la galère, on a du mal à finir les fins de mois, etc., etc. Et dans ce mouvement de loi sécurité globale, c'est très étonnant, mais à la tribune, il y avait des gens de gauche et d'extrême gauche, de la LDH, etc. Et c'était exactement les mêmes postures que reprend Réinfo Covid, sans forcément avoir assisté exactement la même forme de la manifestation, des discours, et toujours l'idéologie qui vient en premier. Moi, je pense que, moi, mon idéologie, c'est ça. Voilà la vraie pensée, la bonne pensée, c'est ça. Et ceux qui ne pensent pas comme moi, ils sont méchants, ils sont soit de droite, soit de gauche, ça dépend des gens. Et c'est vrai que ce qui manque, c'est ce qui a manqué à ce mouvement anti-pass, c'est, comme tu le dis, c'est les causes sociales de la révolte, qui étaient un peu dans la colère du personnel soignant, il y avait un petit peu ça, mais très rapidement, ça a été noyé dans tout un tas de trucs très idéologiques, dans les discours, dans les théories plus ou moins complotistes, quand l'idéologie, le discours, le folklore, on va le dire quel qu'il soit, prime sur les causes sociales, la révolte sociale, la lutte des classes, ça dérive très rapidement vers au mieux l'inintéressant, au pire le confusionnisme, voire l'extrême droite.
Oui, bah c'est une bonne conclusion, effectivement, de rappeler que on n'est pas là que pour critiquer les conspirationnistes, les confusionnistes, l'extrême droite, mais aussi pour faire l'autocritique de la gauche et de l'extrême gauche qui n'a pas forcément brillé depuis 2 ans et même bien au-delà. Ça a été l'objet d'autres émissions. Merci beaucoup Sylvain de nous avoir partagé à la fois tes analyses et puis à partir de ce que tu as du coup vécu avec ta participation au mouvement Antipas à Montpellier. Et donc on peut inciter à lire sur le sujet les différents articles auxquels tu fais référence dans ton éditorial donc sur le mouvement Antipas sur ton site donc Zone Subversive. Et puis nous-mêmes, on rajoutera sur la page de l'émission différents liens vers ces articles et puis peut-être quelques autres. Donc merci beaucoup Sylvain.
Merci.
Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Sortir du capitalisme, le podcast pour une critique émancipatrice du capitalisme.